France Info.
Bienvenue à tous les informés de France Info, même en été, jusqu'à 21h, comme le veut la tradition. La République En Marche cherche sa vitesse de croisière. Alors que STX, les chantiers navals, n'embarquent pas encore les Italiens, eux, en croisière, nous allons en débattre ce soir dans les informés et également la SNCF. Qui essuie les plâtres de ces nouvelles lignes à grande vitesse. Les informés ce soir, Valérie Debord, porte-parole des Républicains, Vincent Trémollet du Figaro, Christian Broucaret de la Fédération des usagers des transports pour la Nouvelle-Aquitaine, Xavier Alberti, chef d'entreprise et soutien d'Emmanuel Macron, et Franck Boisis de Libération. Bienvenue à tous les cinq dans les informés. Après 3 jours de perturbations et d'incertitudes sur la cause du problème à la gare Montparnasse, le trafic va reprendre normalement demain, après d'ultimes tests cette nuit. Alors avant d'évoquer les conséquences peut-être sur la stratégie ferroviaire dans les mois qui viennent, les mois et les années qui viennent pour la SNCF, revenons d'abord sur l'origine. L'origine de cette panne, qui est donc due à un défaut sur un nouvel équipement sur les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Rennes, les lignes à grande vitesse. C'est pas du tout un problème de vétusté finalement, Christian Broucaret, vous qui représentez les usagers.
Alors, j'ai pas la compétence technique.
Non, mais pour savoir c'est ce que dit la SNCF en tout cas.
Oui, mais enfin, j'ai bien écouté ce qui a été dit précédemment sur votre antenne aussi, et il est évident qu'on a rajouté dans un équipement existant des équipements puisque il y a plus de trains qui passent. Bon, j'ai pas la compétence technique pour dire, mais je pense qu'il faudra quand même peut-être minorer les propos de Guillaume Pépi.
Parce que jusqu'à présent, la thèse était de dire on n'entretient pas suffisamment l'équipement à la SNCF. Il y a beaucoup de vétusté, et là, bah voilà, on en paye les conséquences aujourd'hui.
Oui, mais de toute façon, ce qui s'est passé à Montparnasse, c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste du réseau français, et là, on ne peut pas le nier, parce qu'il y a quand même des rapports, par exemple, de l'École Polytechnique de Lausanne, qui datent une dizaine d'années déjà, et qui faisaient le même constat.
Oui, finalement, Laurent Boisis
c'est un vrai problème, mais quand même, puisque cette émission s'appelle Les Informés, petite cerise sur le gâteau, quand Guillaume Pépi renvoie sur la ligne à grande vitesse, il faut quand même rappeler à tout le monde qu'il n'en voulait pas de cette ligne Paris-Bordeaux, qui est concédée au secteur privé. Il faut le rappeler qu'elle est exploitée par l'entreprise de BTP Vinci. Et donc, c'est assez étonnant de voir qu'il renvoie sur cette ligne.
C'est pas une ligne qui est exploitée par la SNCF?
Non, cette ligne Paris-Bordeaux, elle appartient au constructeur de BTP Vinci.
Mais qui est-ce qui l'entretient?
Alors, ce sera Vinci qui l'entretiendra, mais il faut savoir quand même que le Paris-Bordeaux, qui désormais se fait en 2 heures, est la première ligne de la SNCF qui a été concédée au privé.
Avec le partenariat, les fameux partenariats publics.
Avec les fameux PPP, comme on les appelle dans le jargon.
Pour trouver des financements.
Pour trouver des financements, parce que la SNCF n'avait plus les moyens de financer une nouvelle ligne à grande vitesse.
Ouais. Mais est-ce que finalement, c'est une opportunité pour la SNCF de dire, bah, vous voyez, notre réseau, il est parfaitement au point et il est très bien maintenu?
Non, elle peut difficilement le dire. Deux chiffres simplement, je pense qu'il parle. Aujourd'hui, l'endettement de la SNCF, c'est 43 milliards et il va monter jusqu'en 2025 à 63 milliards. Et ces 20 milliards de différence, c'est pour beaucoup des travaux qui vont être mis sur le réaménagement des voies et l'entretien du réseau. Donc ça montre bien que pendant les années TGV, la SNCF a laissé tomber un petit peu l'entretien des voies dites secondaires et que maintenant le réseau est dans un tel état qu'il faut rattraper le temps perdu.
Monsieur Broucaret.
Oui, je partage ce que dit le monsieur de Libération. Mais enfin, si on prend un peu de hauteur par rapport au sujet, la catastrophe pour les usagers, ça a été un problème de communication. Après une panne, ça peut toujours arriver, même ici, dans l'instant. Le problème, c'est ce qu'ont souffert les usagers pendant les 3 jours à Montparnasse, et peut-être aussi une perte de compétences à l'intérieur de la SNCF pour le dépannage.
Quand même un point, au-delà de la panne et au-delà de la communication, c'est le délai pour trouver la panne.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a mis 3 jours
c'est ce que je viens
pour
de
trouver
dire.
La panne. Donc effectivement, ça d'accord. Rejoint ce que vous dites. C'est qu'on manque d'ingénieurs probablement, ou on manque de techniciens.
Oui, ou on a perdu des compétences parce que, vous savez, je ne suis pas persuadé qu'autour de la table, il y ait beaucoup de monde qui se rappelle des commandes du MS-DOS qu'on faisait au début des années 80, pour ceux qui étaient nés dans les années 80.
Ici,
par exemple.
Tous trop jeunes.
Non mais oui, est-ce que la SNCF finalement est devenue, comme vous le disiez vous-même, hein, Christian Broucaret, dans la presse ce matin, dans La Croix, une entreprise moins technique et plus commerciale au fil du temps? Valérie Debord.
Moi je crois qu'aujourd'hui le problème c'est que la SNCF n'a pas de ligne stratégique. Voilà. C'est quoi la ligne stratégique de la SNCF?
elle est là, pourquoi ? Alors, il y a le réseau, il y a les mobilités. Ça sert à quoi ? Est-ce que l'objectif, c'est d'irriguer un territoire qui s'appelle la France ? Ou est-ce que l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des TGV qui vont toujours plus vite et qui permettent uniquement de relier les grandes métropoles françaises entre elles ? C'est un vrai débat politique. C'est-à-dire, est-ce que la France, c'est que des métropoles ? Ou est-ce que la France est un territoire qui est aussi rural, urbain, et qui permet à des millions de Français de se déplacer, de travailler, d'étudier ? Et on voit très bien aujourd'hui que la SNCF, droite et gauche confondue, a abandonné effectivement le réseau secondaire depuis bien longtemps. Si je prends ma région, la région Grand Est, on a plusieurs centaines de kilomètres de lignes qui aujourd'hui ne sont pas entretenues, qui roulent à moins de 50 km/h, avec un objectif affiché de la SNCF, c'est de faire en sorte que nous fermions ces lignes pour y mettre du bus.
Vous dites objectif affiché, c'est-à-dire c'est revendiqué.
Ils ne souhaitent pas entretenir ces lignes, indiquant qu'ils n'ont pas l'argent, et ils nous demandent, nous, régions, mais ils demandent aux autres régions, la région Rhône-Alpes...
De mettre l'argent.
De mettre l'argent sur une seule ligne.
Et c'est choquant ?
Bah, un petit peu, si vous voulez, parce que accessoirement, quand vous construisez quelque chose, vous l'entretenez. D'un point de vue.
Oui, après, la ligne ferroviaire régionale, c'est de la responsabilité des régions.
C'est du transfert. Quand vous transférez l'argent. Mm-hmm. C'est aussi un point de vue, mais c'est un point de vue qui est un peu constitutionnel. Donc, en la matière, on voit bien qu'on est face à un déficit, en fait, de choix politiques. Ou peut-être un trop-plein de choix politiques.
Dans quelques minutes, justement, nous allons voir quelle peut être la stratégie dans les années qui viennent pour la SNCF. Faut-il sortir de ce tout TGV ? Dans quelques minutes, la suite des informés sur France Info. Il est 20h10. L'info France Info, Lauriane Delannoy.
Pas un, mais plusieurs nouveaux feux cet après-midi dans le sud-est. L'incendie près de Grasse dans les Alpes-Maritimes est maintenant fixé. Les flammes n'avancent plus non plus à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Dans le Gard à Vénéjean, le feu s'est vite propagé sur une vingtaine d'hectares dans une pinède. Des incendies et une chaleur étouffante. La canicule s'installe dans la vallée du Rhône jusqu'à la Corse. Gare aux orages violents plus au nord. Météo France place tout l'axe du Massif central à la frontière allemande en vigilance orange. Les marcheurs auront 15 jours de plus pour se prononcer sur les statuts. La République En Marche se plie à l'ordonnance du tribunal de Créteil, tribunal qui a rejeté cet après-midi la demande d'annulation du vote formulée par des adhérents du mouvement. Les agents de Montparnasse vont pouvoir reprendre une vie normale. Après 3 jours de paralysie dans la gare parisienne, la circulation habituelle devrait être progressivement rétablie dès demain.
France Info. Les informés.
20h11, la suite des informés de France Info. Panne géante à la SNCF. Y a-t-il un virage stratégique en vue pour le ferroviaire en France ? Elisabeth Borne, la ministre des Transports, veut que l'on change en effet de stratégie. Elle l'a dit ce matin.
On revoit les priorités. Il faut accorder la priorité au transport de la vie quotidienne, à l'entretien et à la modernisation de nos réseaux. Ce sont 3 milliards d'euros tous les ans qui vont être investis pour rénover le réseau, dont il faut bien comprendre qu'il s'est fortement dégradé.
Elisabeth Borne, qui était donc l'invitée de nos confrères d'Europe 1, ce virage stratégique, ça fait des années qu'on dit qu'on a trop misé sur le TGV, non ?
Oui, c'est un peu facile.
Enfin, c'est le disque rayé, non ?
Il y a d'abord un diagnostic à poser. Nos intellectuels s'écharpent pour savoir si c'était mieux avant ou pas mieux avant. Il y a un sujet sur lequel c'était mieux avant, c'est indiscutable, c'est la SNCF. C'est-à-dire que c'était plus fiable et c'était moins cher. Et il y a un laisser-aller qui s'est installé sur les lignes quotidiennes, mais aussi sur les TGV. Vous prenez des gens qui prennent 15 fois le TGV Paris-Lyon, ils ont 13 retards. Moi, je pratique une ligne qui est la ligne L. On a perdu 20 minutes par jour en 2 ans. Il y a des trains supprimés tous les jours. On ne sait pas si on peut rentrer chez soi le soir. On est dans une gare, on doit prendre des cars ou des bus ou appeler quelqu'un. Et c'est une chose qui est pratiquée par tout le monde. Les gens qui prennent le RER B le savent. Les gens qui prennent le RER C, quand ils passent, le savent aussi. Et donc, il y a une question de stratégie, il y a une question de budget. Mais on a l'impression que c'est installé une habitude qui n'existait pas, parce que c'était quand même une excellence française, la SNCF, du train, dont on ne sait pas s'il sera là. Un dernier exemple plus éloquent, les élèves qui vont passer maintenant leurs examens à Arcueil dorment à l'hôtel parce qu'ils ne savent plus s'ils pourront y arriver en prenant le RER au petit matin. Donc, c'est quand même un problème. Face au réquisiteur Vincent de Trémollet, je vais peut-être me faire quelque peu l'avocat de la SNCF, c'est qu'entre-temps, le nombre de voyageurs, le nombre d'usagers, appelons-les comme on veut, a considérablement augmenté, et les structures n'ont pas augmenté en proportion. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, les lignes accueillent de plus en plus de voyageurs, et qu'à un moment donné,
il y a sûrement des raisons, mais le fait que l'on habitue le voyageur à ce qu'il ait à l'esprit, peut-être mon train ne partira pas, qui est une chose qui est quasiment installée, n'est absolument pas normal, surtout que les prix ont augmenté, que ce soit celui de Pass Navigo ou celui des lignes à grande vitesse.
J'ai relu un rapport, parce qu'on prépare les émissions, hein, même ouais, au mois d'août. J'ai relu un rapport qui date de 1995 et qui pointait dès 1995 le problème de la robustesse, effectivement, des infrastructures, du fait de la montée en puissance du trafic et du nombre de passagers. Et on parle pas forcément de vétusté. La robustesse, c'est le fait que, effectivement, l'infrastructure en tant que telle, même entretenue, soit capable ou pas d'encaisser, finalement, la volumétrie qui s'accentue. Et c'était il y a 20 ans. Donc, en fait, on n'a pas tiré les conclusions de ce genre de rapport parce que il y a aussi une dichotomie dans la SNCF entre la partie mobilité et la partie réseau. C'est-à-dire la partie commerciale et marketing et puis la partie développement des infrastructures, entretien des infrastructures, avec un arbitrage qui se fait plutôt en faveur ou qui s'est fait plutôt depuis quelques 15-20 ans en faveur du marketing et du commerce que de l'entretien et de la montée en puissance de la robustesse des infrastructures.
Je voudrais rebondir sur ce manque d'offres aussi entre les villes de province. Et peut-être y a-t-il une question à se poser au niveau de la concurrence. Regardez dans l'aérien. Il y a de nombreuses années, il n'y avait que Air France et Air Inter. Et puis, finalement, sont arrivées des compagnies plus petites comme EasyJet, etc., qui ont ouvert des lignes qui n'intéressaient pas du tout Air France. Est-ce que finalement, un peu de concurrence dans le ferroviaire permettrait de faire des liaisons comme, par exemple, du Bordeaux-Nantes sans passer par Tours?
Alors,
Christian Bourou-Carré.
Oui, mais on pourrait par exemple parler de Bordeaux-Lyon qui est coupé sur une trente ou quarantaine de kilomètres, mais la concurrence, elle y est déjà. Ça s'appelle les autocars Macron. Parce que.
Et Blablacar.
Oui, bien sûr. Oui, j'allais le dire. Je me permettais de vous regarder en sourire. Mais c'est vrai.
6 millions de passagers sur les autocars.
Non, mais bien sûr, la concurrence est liée parce que le marché y a horreur du vide.
Mais vous souhaitez de la concurrence pour représenter les usagers. Vous souhaitez de la concurrence sur le rail ou pas?
Ben, bien sûr, pour une raison très simple. C'est que de toute façon, aujourd'hui, on critique la SNCF parce qu'on ne peut pas voir l'état réel. Si demain il y a un concurrent, on verra si le concurrent il fait mieux. Voilà, aujourd'hui, voilà. Et puis de toute façon, on a bien vu sur tous les monopoles européens qui ont été ouverts, l'opérateur historique a toujours gardé la plus grande partie du marché.
Mmh. On voit
bien
en France. En Allemagne, il y en a beaucoup qui ont coulé, oui.
La Deutsche Bahn a quand même conservé la grande majorité du marché. Vous voyez, en France, EDF, GDF continuent à vendre le maximum d'électricité, le maximum de gaz, il n'y a pas de souci.
Valérie Debord.
Oui, moi je suis d'accord. Je pense qu'il faut quand même qu'on passe dans une vraie logique de vrai commercial. Aujourd'hui, la SNCF, elle n'a pas de concurrence réelle. Donc du coup, c'est sûr qu'on n'est pas dans une logique client. Et quand on voit quand même des milliers de passagers laissés trois jours à l'abandon...
On n'est pas dans une logique client, mais souvenez-vous, il y a 30 ans, c'était quand même pire,
non ? Je suis
ça marchait.
Si on commence à raisonner comme ça, si vous voulez...
Non, mais il y a quand même eu du progrès.
Enfin, il y a des progrès sur le LGV. Ouais. Effectivement. Alors après, il y a une massification du nombre de personnes qui sont transportées. C'est un fait. Mais il y a des rapports, effectivement, qui ont été faits. Ils n'ont pas forcément été pris en compte. Mais ce qui est certain, si on commence à dire c'est quand même mieux que ce qui s'est passé avant la guerre, c'est sûr qu'on va trouver quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se passent mieux aujourd'hui qu'avant la guerre. L'objectif dans le monde, si vous voulez, c'est le progrès. C'est pas la régression.
La difficulté, la question, c'est celle de la privatisation. En fait.
Et voilà.
Film qui s'appelle L'exercice de l'État qui montre le dilemme que peuvent avoir les amoureux de la République parce que c'est quand même un des fleurons. Si la NCCF continue à mettre trois jours à trouver la panne à communiquer de façon complètement hasardeuse, il est évident que va s'installer dans les esprits l'idée qu'il faut des concurrents. Et que
qu'est-ce que ça aurait changé la concurrence?
C'est pas
ça aurait
rien
changé. C'est-à-dire que là, nous avons un chef d'entreprise à cette table. Je pense que si dans son entreprise, au bout de trois jours, on ne sait pas ce qui s'est passé et que tous les clients ne sont pas servis, il dormira peut-être très mal et il se dira, je vais peut-être fermer mon entreprise.
Oui, mais ça n'aurait rien changé parce que le réseau...
La NCF n'aurait pas attendu deux jours pour fermer la gare.
C'est effarant.
Ils ont attendu deux jours pour fermer la gare parce qu'on voit bien que c'est qu'à partir du moment où ils ont fermé la gare, qu'ils ont réussi à travailler correctement et à trouver la problématique de la panne. Donc ça veut dire qu'ils auraient peut-être des ingénieurs qu'ils auraient recrutés, qui seraient compétents. Enfin, on parlait tout à l'heure d'Air France. C'est clair que l'augmentation de petites lignes et de nouveaux opérateurs a aussi obligé Air France à se remettre en cause.
Imaginez trois jours comme ça avec EasyJet. Enfin, oui, imaginez les papiers sur la dérive ultralibérale, le choix de low cost. Comment c'était certain que ça ne pouvait pas marcher. Bon, enfin,
ça n'aurait rien changé pour le réseau, parce que le réseau, il restera toujours dans le giron de l'État ou d'une collectivité. Peut-être que demain, la région Grand Est prendra
les lignes de 7 à 9.
Mais bien sûr, c'est comme le réseau électrique. Au jour d'aujourd'hui, certes, c'est Enedis qui l'exploite, mais il appartient toujours à la collectivité. Hein. Donc, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme commercialisateur dessus, vous pouvez faire rouler n'importe quel train. Je pense que madame va vous le dire en Alsace. Mmh. Vous avez mis beaucoup d'argent, comme toutes les régions, dans le matériel. Mais vous pouvez acheter des Ferrari, mais si la route elle est en mauvais état, vous ne roulerez pas plus vite et vous ne roulerez pas mieux.
Donc tant qu'on n'aura pas solutionné le problème des rails et du réseau, ça ne sert à rien de déconcurrencer le réseau.
Alors, je ne connaissais pas le rapport de 1995, pourtant j'étais né à l'époque. Ouais. Mais il y a eu exactement le même qui est sorti il y a 15 jours, le rapport robustesse, où entre autres le président de la FNOT et puis les associations ont participé et qui pose les vrais problèmes. Et il faut espérer c'est que cet incident à Montparnasse, eh ben, ça va être le fait que la SNCF va remonter en qualité.
Franck Boisiz,
je vais reprendre quand même Xavier Alberti témoin, parce qu'effectivement, il ferme il faut 3 jours pour mettre à jour, c'est le cas de le dire, une panne et en connaître les raisons, mais comme il est un investisseur avisé également, j'imagine qu'il place l'argent ou celui de ses actionnaires uniquement dans des entreprises rentables. Or, privatiser la SNCF aujourd'hui peut apparaître comme une thématique extrêmement intéressante, mais regardez les comptes de la SNCF.
Par l'ouverture à la concurrence.
Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je ne sais pas si monsieur investirait dedans.
Voilà,
je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis que de tels événements ne peuvent que provoquer cette idée dans l'esprit de l'opinion publique.
Mais il vous a pas échappé, Vincent, que dans tous les pays d'Europe, si certes des compagnies aériennes ont été privatisées, ce qui est le cas de Lufthansa, ce qui est le cas de British Airways et ce qui est le cas d'Air France dans notre beau pays, en revanche, la Deutsche Bahn en Allemagne n'a pas été privatisée.
Non.
Donc, si on ne privatise pas les chemins de fer dans la plupart des États européens, c'est parce que ce sont, un, des activités qui réclament beaucoup de capital et qui, deux, sont extrêmement peu rentables parce qu'elles ont une vocation de management du territoire.
C'est un sujet très complexe et en plus, c'est un sujet très politique.
Les Allemands y ont mis beaucoup d'argent.
En tout cas, on entendra parler des conséquences de cette panne gigantesque à Montparnasse d'ici la fin de la semaine, puisque la ministre des Transports, le gouvernement, a exigé des explications de la part de la SNCF qui va devoir pondre son rapport et son mea culpa. Merci beaucoup d'être venu, Christian Broucaret. Vous représentez la Fédération des usagers des transports en Nouvelle-Aquitaine. Nous poursuivons les informés dans un instant avec En Marche, la start-up macronienne en crise de croissance. A tout de suite, 20h20, toute l'info avec Lauriane Delanoë.
Nous sommes à un pas de la réforme du Code du travail par ordonnance. Les sénateurs doivent voter demain pour adopter définitivement le projet d'habilitation pour ce premier gros chantier du quinquennat Macron. L'Assemblée nationale a validé le texte cet après-midi. Un bain de sang dans une mosquée chiite d'Afghanistan. Ce soir, au moins 20 morts et une trentaine de blessés dans un attentat à Herat, une ville près de la frontière avec l'Iran. La SNCF au rapport après la paralysie en gare de Paris-Montparnasse depuis avant-hier. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, demande des comptes d'ici la fin de la semaine. La société ferroviaire assure que le trafic reviendra à la normale demain, mais progressivement. Oubliez les draps, il fera plus de 20 degrés cette nuit dans le sud-est. Vigilance orange à la canicule de la Corse du Sud jusqu'au Rhône. Et tout l'axe du centre au nord-est est aussi en orange sur la carte de Météo France. Gare aux orages qui s'annoncent violents dans 16 départements.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Les informés du soir, Valérie Debord des Républicains, Vincent Trémollet du Figaro, Xavier Alberti, chef d'entreprise soutien d'Emmanuel Macron et Franck Boisiz de Libération. La République en marche, est-ce un parti qui se cherche encore? Comment conserver l'énergie des 370 000 adhérents qui ont porté le parti au pouvoir? Comment professionnaliser En Marche? Saisi par des adhérents, la justice impose au parti de prolonger de 15 jours le vote des statuts, c'est-à-dire le fonctionnement qu'il souhaite mettre en place. Des adhérents ont dénoncé le manque de démocratie interne. Est-ce que, après le succès électoral, est-ce que finalement vous avez du mal à passer à autre chose, Xavier Alberti?
Non, on passe à autre chose. Non, mais on passe à autre chose.
Ouais,
c'est pas avoir du mal. Non, mais bien sûr,
c'est
une crise de croissance.
C'est une crise de croissance.
Dire qu'un parti qui est né il y a 16 mois, qui a remporté toutes les élections, puis a commencé par l'élection présidentielle, qui se retrouve avec 370 000 adhérents. Alors après, on dira, ils sont payants, pas payants, peu importe, mais avec une masse, effectivement, d'adhérents très importante. Dire qu'il doit se transformer et que quand on se transforme, on ne fait pas que des heureux, c'est pas ni original,
en
ni,
quoi il doit
ni,
se transformer,
ni, ni honteux. Bah, il doit se structurer, forcément. Il va avoir de l'argent à gérer, il faut le gérer sérieusement. Il a la nécessité de se structurer pour continuer à vivre, parce que l'énergie d'une élection présidentielle, parce que c'est ça qui fait En Marche. Ce qui fait En Marche, c'est un projet qui dépasse le rationnel. Et c'est l'énergie, c'est l'adrénaline de l'élection présidentielle, ça permet beaucoup de choses. Puis ensuite, ça retombe, on revient au réel. Et puis dans ce réel, il faut arriver à gérer et les hommes, donc les talents et l'argent, et puis les perspectives politiques qui se présentent. Donc le fait de devoir changer, c'est une réalité. Et le fait que dans le changement, il n'y ait pas que des heureux, c'en est une autre.
Vincent
Trabollet. Après, je voudrais juste relativiser sur des adhérents. Le recours en question, c'est 30 adhérents. Hein.
Oui,
30 adhérents sur 370 000, même s'ils étaient probablement fondés à le faire, et même si le tribunal a peut-être eu raison de dire il faut 15 jours de plus, et pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est pas une course de vitesse.
Vincent Trémollet.
C'est pas ça qui remet en cause la pérennité.
C'est pas la rébellion.
On a vu des fronts d'un tout petit peu plus ambitieuses que celle-là. Ensuite, le fait qu'on dise que la démocratie interne n'existe pas, les partis politiques ont quand même toujours fonctionné avec une certaine verticalité, on va dire, parce que...
Oui, mais c'est quelque chose à laquelle le parti n'était pas vraiment habitué.
Ben non, mais c'est la
et qui n'a pas été construit
c'est
sur
la
ça,
difficulté. Moi, je pense que c'est l'immense difficulté de la synthèse macronienne, c'est que justement que c'est une synthèse. Donc, elle est fondée d'abord sur une personne, qui est Emmanuel Macron, qui est parvenu, un peu comme Napoléon III, à mettre avec lui des gens qui ne travaillent pas ensemble. Mais une fois que cet objectif est atteint, quel est le nouvel objectif? Alors, est-ce que c'est la réélection déjà d'Emmanuel Macron? Ça fait quand même un petit peu césariste, c'est quand même un petit peu tôt. Et donc, je pense que cet entre-deux dans lequel on est, c'est cette impression de flou de parti dont on ne sait pas très bien vers où il va aller, les élus qui ont l'air un peu paumés, vient de cette chute. Vous n'avez pas dû parler
de la ligne, de cette espèce de chute. Est-ce que la République En Marche est en train de devenir un parti normal comme les autres?
Qu'est-ce que c'est un parti normal?
Comme nous le décrit Vincent Trémollet, c'est-à-dire entre deux élections, où est-ce qu'on va, qu'on fait?
Sans mauvais jeu de mots, enfin, si vous voulez, c'est un parti politique, c'est extrêmement compliqué.
Ouais.
Donc,
vous en savez quelque chose?
Oui. Non, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Moi, je suis dans un parti politique qui a une origine gaulliste et une origine démocrate chrétienne, rien que ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est effectivement, je ne jetterai pas d'anathème parce que je sais à quel point c'est compliqué. Par contre, en fait, le challenge, c'est la ligne. Et effectivement, c'est ou une ligne césariste-jupitérienne, un homme, pour le coup, c'est très gaullien, voilà, un homme, un parti pour un homme. Et après tout, pourquoi pas, c'est la Ve République. Donc, on ne va pas forcément être opposé à ça. Ou alors, c'est différent. Mais c'est sûr que ça va être un challenge qui est un challenge important. On voit quand même bien la tentation d'inscrire d'ores et déjà un second mandat. Donc, on voit quand même bien la tentation césariste. Elle est assez évidente. Après, comment vous allez réussir à faire vivre autant de gens autour de ça? C'est un vrai challenge. Je regarde avec intérêt, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit venu complètement pour ça. Bah, si, c'est intéressant à regarder.
Par la décentralisation? Parce que, encore une fois, au-delà du procès en centralisation, la réalité des statuts, elle dit l'inverse. Hein. La réalité des nouveaux statuts, elle dit qu'il y a 3200 comités locaux, qu'ils ont énormément...
Mais que les comités locaux, les représentants des comités locaux sont désignés par Paris. Ils ne sont pas élus localement.
Sur le fonctionnement.
Non, mais vous êtes d'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
Non, pas du tout.
Les représentants locaux, les leaders locaux sont élus localement?
Non, les comités élisent leurs représentants. Il y a même des membres des comités locaux qui sont tirés au sort pour participer au comité... alors, ça ne s'appelle pas le comité central, pardon, mais au conseil supérieur, on va dire, du parti.
Il y a juste un quart du conseil qui vient de la base.
20% tirés au sort.
Ouais.
Pas mal.
Vous
connaissez beaucoup de partis qui ont mis en place ce genre de choses. Toutes les instances dirigeantes sont paritaires. Valérie, est-ce que vous connaissez beaucoup de partis?
Chez nous, oui. Je suis désolée, mais chez nous, c'est paritaire. Et alors, là, sur ce coup-là, on a 3800 conseillers nationaux.
Et le bureau politique des Républicains, il est paritaire?
Le bureau politique des Républicains, c'est...
Il n'est pas paritaire.
Non, il n'est pas paritaire, mais c'est 80 personnes.
Mais la difficulté, c'est
3800 personnes qui sont élues.
La perception qu'on a aujourd'hui dans
Marche, c'est eux qui décident des investitures.
C'est Emmanuel Macron et ses deux porte-flingues tout porte-parole, ouais. Je sais pas comment on les appelle, Richard Ferrand, Christophe Castaner, qui sont d'anciens socialistes.
Ferrand, c'est pas trop il est en ce moment, quand même.
Oui, enfin, qu'on voit un peu moins. Non, mais je parle d'une perception. Je ne dis pas que c'est comme ça dans les faits.
Parce qu'on laisse pas le temps. On ne laisse pas le temps.
Mais donc,
il
faut que justement, les données en marche, mais il faudrait que des figures. Il faudrait que des figures émergent.
Laissez-les émerger. Mais laissez-les émerger.
Oui,
mais
pour le moment, on n'en a qu'un qui est dans un rôle.
Ça, le débat sera trop politicien. Est-ce que les juges de paix ne seront pas finalement les adhérents? Je pense qu'il va y avoir une date extrêmement intéressante. C'est que dans quelques mois, les premiers adhérents vont arriver à un an d'ancienneté dans ce parti. Est-ce qu'ils vont renouveler leurs adhésions ou pas? Je pense que ce parti qui totalise, je parle sous le contrôle de Alberti, 320 000 adhérents. On est
370 000.
370 000. Bon. Est-ce que dans six mois, quand les premiers auront largement dépassé leur année d'adhésion, ils seront toujours là ou pas? Je pense que ce baromètre-là va permettre de savoir si le centralisme démocratique qui est en train de se mettre en place chez En Marche fait fuir finalement les troupes, ou alors qu'ils s'y trouvent finalement assez bien.
Et pour ça, il faut leur donner aussi une quête et un objectif, un challenge. Il y avait cette énergie-là pour la présidentielle.
Une base
idéologique, mais elle existe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ce européiste, progressiste, avec une teinte libérale en économie. Mais après, il y a quand même mille nuances. C'est-à-dire que si vous prenez ce sujet régalien, tout le monde n'est pas d'accord. Si vous prenez les sujets de société, tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, Emmanuel Macron arrive pour le moment à maintenir cette synthèse. Mais je pense que le jour où, mettons, il perd dans 5 ans, c'est terminé. Enfin, on ne voit pas comment elle pourrait être maintenue autrement que par les mots employés par Xavier Alberti, c'est-à-dire quelque chose qui a dépassé la raison, qui a été une espèce d'affection.
Oui, c'est le temps de l'élection présidentielle. C'est un temps particulier. Mais aujourd'hui, il y a une ligne politique. Elle est claire. Elle a gagné, en l'occurrence. Elle a gagné deux élections, donc elle est posée sur la table. Elle est en train d'être déployée. Il y a aussi des sujets vis-à-vis des corps intermédiaires. Il y a des sujets vis-à-vis des prochaines échéances électorales. Et il y a des sujets locaux, il y a des sujets régionaux. Oui. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui vont nécessiter la structuration d'équipes locales, et pas que pour se présenter à l'élection, mais pour faire vivre le projet. En
tout cas, il y a un défi pour La République En Marche.
Et je répète que
le perchoir, c'est le Sénat, et ça sera le prochain défi de La République En Marche.
Que 23% au
et
premier tour.
Et nous aurons l'occasion d'en
reparler
dans les informés de France Info. Dans quelques minutes.
Et le juge de paix, c'est le peuple.
Dans quelques minutes, suite des informés avec notre prochain débat sur STX, les chantiers navals, se réconcilier avec les émis italiens. C'est pas gagné. À tout de suite. La météo. À Météo France, Sébastien Léas.
Des orages localement violents éclateront encore en première partie de nuit sur le centre-est et le nord-est, mais les conditions vont s'améliorer par la suite. Demain matin, on retrouvera de l'humidité laissée par la perturbation et le début de journée sera localement gris entre le Massif central, le Jura et le Grand Est et au pied des Pyrénées. Les éclaircies reviendront rapidement pour un après-midi ensoleillé. Du sud de la Loire aux régions méridionales, le soleil s'imposera largement. En revanche, le nord-ouest sera concerné par l'arrivée d'une perturbation. La matinée verra déjà des pluies faibles entre le Finistère et le Cotentin, puis les pluies s'étendront l'après-midi de l'Ouest-Bretagne au Boulonnais. À l'avant de ces pluies faibles et intermittentes, le ciel sera bien chargé du golfe du Morbihan aux Hauts-de-France et aux Ardennes. Côté température, la chaleur sera marquée sur le sud-est. Météo France a d'ailleurs émis une vigilance orange pour un épisode de canicule. Les maximales afficheront 19 à 37 degrés en général, voire localement plus en Corse.
Merci Sébastien. Il est 20h30, les informés de France Info. Et toute l'info tout de suite avec Lauriane Delanoë.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Lauriane Delanoë et toute l'info.
Paris, ville olympique, la capitale devrait accueillir les Jeux de 2024. Los Angeles de 2028 ne manque plus qu'une formalité. La validation officielle par le comité olympique, ce sera en septembre. C'est une triple victoire d'après Bernard Lapassé, le coprésident du comité de candidature de Paris 2024. Victoire donc pour le CIO, pour Paris et pour Los Angeles. Mais pour nos portefeuilles alors, Maxime Debs, combien est-ce que ces JO vont nous coûter ?
6 milliards 600 millions d'euros, c'est l'enveloppe que Paris promet de ne pas dépasser pour ces Jeux. Un budget maîtrisé assure les équipes chargées de l'organisation. Souci, jusqu'ici, les villes qui ont accueilli les JO ont toujours dépensé plus qu'annoncé au départ. À Londres, il y a 5 ans, par exemple, les Anglais avaient tablé sur un coût de l'ordre de 5 milliards. C'est plus du double qu'il avait fallu sortir. Pourtant, à l'époque déjà, les Londoniens avaient opté pour des structures démontables plutôt que sur de nouvelles infrastructures en dur. Alors certes, l'avantage de Paris cette fois-ci c'est que très peu reste à construire, hormis le village olympique, entre autres. Ces Jeux seront low cost, promet-on, pas question de flamber. Mais Paris a-t-elle les moyens de ne pas déraper entre le métro à rendre accessible à tous, exigence du CIO, et le reste du cahier des charges? Certains se posent la question, quand d'autres s'interrogent sur les bienfaits même de Paris 2024, comme Charles de Courson, vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée. Pour lui, les retombées potentiellement espérées ne valent même pas les 6 milliards provisionnés.
Maxime Debs. Les sincères regrets ce soir de Guillaume Pépi, le président de la SNCF, s'excuse auprès des 55 000 clients frappés depuis 3 jours par la pagaille monstre en gare de Paris-Montparnasse. Dans le journal Sud-Ouest, il assure que la panne n'a rien à voir avec un défaut de maintenance. Elle serait liée aux travaux des nouvelles lignes à grande vitesse entre vers Bordeaux et Rennes. Il a fallu étendre les capacités du poste d'aiguillage de Vanves au sud de Paris. Le trafic à Montparnasse doit reprendre normalement demain. L'Italie campe sur ses positions dans le dossier STX. Le ministre italien de l'économie réaffirme qu'il est impossible pour l'Italie d'accepter la proposition française. La France propose de partager à 50-50 le capital des chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais les Italiens acceptent une autre proposition, celle de mettre en place une coopération militaire en plus de la coopération civile. C'est ce qui ressort de la déclaration commune publiée ce soir par le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et ses homologues italiens. Bruno Le Maire était à Rome cet après-midi. Dans le sud-est de la France, les pompiers maîtrisent les feux. Plusieurs départs cet après-midi dans le Gard, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. À Istres, l'incendie ne progresse plus, mais 5 quartiers, une crèche et 2 centres aérés ont dû être évacués préventivement. Il est 20h33 sur France Info. On vous retrouve avec vos informés, Guillaume Caour.
Les informés, Guillaume Caour.
Bruno Le Maire était donc à Rome aujourd'hui, le ministre de l'économie, pour essayer de trouver un accord avec les Italiens qui étaient chagrinés, hein, c'est peu de le dire, après la nationalisation temporaire de STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire. L'État a décidé de reprendre la main pour reprendre du temps et ne pas laisser aux Italiens la majorité du capital. Et les Italiens, nos amis italiens, comme le dit Bruno Le Maire, eux ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ils souhaitent rester majoritaires. Après tout, les Coréens avant avaient 66% du capital. Pourquoi pas nous ? Bruno Le Maire, il y a quelques minutes, est sorti de cette réunion avec cette volonté de construire rien de moins que l'Airbus naval, un nouvel Airbus européen.
J'ai bon espoir que dans les semaines qui viennent, nous trouverons non seulement une solution sur STX, mais surtout que nous arriverons à lancer les bases de cette coopération navale entre l'Italie et la France. Et j'aimerais que chacun prenne conscience de l'enjeu. Au-delà de STX, c'est quoi l'enjeu ? C'est de bâtir, dans le domaine de l'industrie navale, l'équivalent de ce que nous avons su faire dans le domaine de l'aéronautique avec Airbus.
Les informés donc ce soir avec Valérie Debord des Républicains, Vincent Trémollet du Figaro et Xavier Alberti, chef d'entreprise soutien d'Emmanuel Macron et Franck Boisis de Libération. Est-ce que finalement quand on entend Bruno Le Maire, on a l'impression d'entendre ce qu'il disait il y a une semaine ? Il ne s'est rien passé aujourd'hui, si ce n'est qu'il a dû accuser le coup, non ?
Il a d'autant plus accusé le coup, et Libération racontera l'histoire dans son édition de demain, qu'apparemment le ministre italien de l'industrie lui a accordé en tout et pour tout 20 minutes. Donc je ne sais pas si vous imaginez, 2 heures de Falcon dans un sens, 20 minutes, et puis 2 heures de Falcon dans l'autre. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de temps de dépenser. On a l'impression effectivement que les Italiens sont assez tétanisés. Maintenant, il y a aussi une part de communication dans tout ça, dans la mesure où, comme ils imaginaient avoir 65% du capital, ils n'en ont plus que 50, ils sont nécessairement déçus. D'un autre côté, pour conclure, vous remarquerez quand même que toute partie politique confondue, cette décision de nationaliser STX a fait l'unanimité au nom de la défense.
Et dans l'opinion publique aussi.
Et dans l'opinion publique, au nom de la défense de l'industrie française.
Cette volonté de créer un Airbus naval donc, dans le domaine civil et militaire, c'est une ambition, mais est-ce qu'on n'a pas sous-estimé l'exaspération profonde des Italiens, Vincent Trémollet ?
Non, je pense. Je pense qu'on a fait, là on a beaucoup reproché Emmanuel Macron de faire de la communication, là il a fait de la politique et donc il a installé un rapport de force avec les Italiens dans lequel il défend les intérêts des Français, les Italiens défendent les intérêts des Italiens, Ça s'appelle l'art politique, ça se passe comme ça depuis toujours. Alors ensuite, il y a ce projet très ambitieux qui est une espèce de sortie par le haut qui, à mon avis, pour gagner du temps pour le moment, parce que ça paraît quand même un peu loin, cet Airbus naval que voudrait créer...
Excusez-moi, mais construire un tel chantier sur quand même des bases de rivalité, d'égo blessé, c'est pas simple quand même.
Non, ça sera très difficile, mais en restaurer l'idée que l'État puisse avoir une influence bénéfique sur ce type d'industrie, c'est quelque chose d'essentiel. Il faudrait quand même rappeler que les GAFA que l'on admire,
les GAFA, dans le monde entier, Apple, Facebook,
voilà, ne seraient rien sans la DARPA, qui est l'agence du Pentagone, qui aide à la recherche et au développement, et que ça a participé indirectement à leur développement. Et donc que l'État aide sur un domaine aussi stratégique et considère qu'il fasse le choix de ces nocialisations temporaires, à mon avis... Il est dans son rôle et pour une fois, on a un véritable acte politique. Alors, espérons qu'il durera, parce que ça peut être justement de la politique temporaire aussi.
Ouais, c'est un acte Xavier politique. Moi, je vois l'acte, excusez-moi pour l'anglicisme, de business habituel. Hein. On est dans une négociation, dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition. Mmh. Ça se tend un petit peu. Il y a un droit de préemption. Ben, il y en a un qui l'active parce que ça lui permet de reprendre la main. Ça fâche le partenaire, mais tout ça, c'est de jeu, effectivement. Il a droit à un accueil un peu froid, mais c'est le jeu. Ils ont quand même fixé une date en disant qu'il fallait qu'ils aient trouvé une solution avant le 27 septembre, ce qui donne une perspective, et on sait que les discussions vont continuer. On est dans l'État stratège qui joue son rôle d'État stratège en tant que tel, qui a repris la main en tant que tel sur cette opération. Moi, je trouve que c'est assez habilement joué. Ce qu'aurait fait n'importe quel chef d'entreprise, en l'occurrence, là, l'État l'a fait. Par ailleurs, Bruno Le Maire a ouvert une porte aujourd'hui sur la structure de l'actionnariat en disant qu'effectivement, il souhaitait que les Italiens restent à 50%, mais en ouvrant à 15% le capital pour DCNS, ce qui fait qu'en fait, il y aurait quatre actionnaires
DCNS, c'est la branche militaire, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Hein, et en faisant ça, il donne de fait la majorité à Fincantieri, puisqu'il se retrouverait à avoir la présidence du conseil d'administration avec la voix prépondérante en cas de partage des voix. Donc, c'est une majorité dans les faits. C'est-à-dire que pour le coup, il se retrouverait à pouvoir piloter l'entreprise et en termes de gouvernance, avoir quelque chose qui est efficace.
Franck Boisise.
Que n'aurait-on dit, et je vous ramène quelques années en arrière sur le feuilleton Alstom, si finalement l'État français avait laissé partir STX chez Fincantieri et que l'activité du maritime étant cyclique par nature, dans 3 ou 4 ans, quand les bateaux se vendent un peu moins, Fincantieri avait dit « bon, bah, écoutez, c'est bien gentil ». Mais là, comme on a un peu moins de commandes, on va délocaliser un peu sur la Chine ou ailleurs. Là, on aurait eu la gueule de bois, si vous me passez l'expression, à Saint-Nazaire. Donc, la réaction, là, en l'occurrence, c'est aussi une réaction défensive à l'égard de l'industrie française.
Pour protéger l'emploi.
Pour protéger l'emploi et le savoir-faire, ce qui est important.
En fait, alors, regardons quand même les choses, même si la décision a un intérêt évident. Aujourd'hui, il revient quand même sur la décision du précédent gouvernement. Il y avait eu un accord qui avait été passé par Hollande, qui n'était pas inintéressant par rapport à l'actionnariat, qui n'était pas inintéressant par rapport à la garantie sur les sous-traitants, parce que ce que demandent notamment les syndicats à Saint-Nazaire, et ils ont raison, c'est la garantie sur les sous-traitants qui garantissent plusieurs milliers d'emplois. Et il y avait aussi une garantie sur tout ce qui était brevets et sur l'utilisation des chantiers. Il y a aujourd'hui 10 années de commandes garanties sur les chantiers à Saint-Nazaire. Ensuite, on sait très bien que cette décision de vente, elle arrive uniquement parce que l'actionnaire, c'est un Coréen quand même. Enfin,
Sud-Coréen.
Il y a quand même un truc un peu bizarre à pas vouloir des Italiens, alors qu'on était Sud-Coréen qui est en faillite et qui revend en fait la seule filiale qui est active, c'est-à-dire la filiale française. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui est intéressant à Saint-Nazaire, c'est effectivement la possibilité d'avoir une cale à sec de 900 mètres, qui est la seule au monde,
qui
fait qu'il n'y aura pas de délocalisation. Parce que cette cale à sec, elle n'existe qu'à Saint-Nazaire. Donc moi, je pense qu'il y a aussi un peu de com', excusez-moi, intelligente de la part du président de la République, et qu'il y a une reprise en main par rapport à une com' qui a été assez désastreuse, et qu'on se donne le 27 septembre pour retomber à 50-50, et surtout avec l'exécutif, qui sera italien.
Ouais,
on revient
dans une
à ce qui était prévu initialement.
Info. La suite des informés dans un instant. 20h40, toute l'info, Lauriane Delanoë.
La pagaille monstre en gare de Paris-Montparnasse a-t-elle été causée par la mise en service des toutes nouvelles lignes à grande vitesse vers Bordeaux et Rennes? C'est ce qu'affirme le président de la SNCF, Guillaume Pépi, dans une interview au journal Sud-Ouest. Il pointe les travaux au poste d'aiguillage de Vanves. L'Assemblée accepte de laisser la main au gouvernement pour la réforme du Code du travail. Les députés ont approuvé cet après-midi le projet d'habilitation pour réformer par ordonnance. Le Sénat doit voter à son tour demain pour l'adoption définitive de ce texte. Un bus tombe dans un ravin, fait plusieurs tonneaux et prend feu. Au moins 34 personnes sont mortes la nuit dernière dans un accident à Madagascar. Le car transportait plus d'une centaine de passagers, des jeunes fidèles protestants. C'est l'euphorie totale au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Juan Juan, une femelle panda, n'attend pas un, mais deux bébés. La naissance est prévue en fin de semaine.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
La suite des informés sur France Info. Nous poursuivons ce débat à propos de STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire, avec Bruno Le Maire qui a amorcé la réconciliation avec les Italiens aujourd'hui, même si ça va prendre beaucoup de temps. On a senti beaucoup d'animosité de la part des Italiens. Est-ce qu'il y a un risque que les négociations échouent? Est-ce qu'il y a un plan B?
Alors, Franck Boisy, Libération. Pour le moment, il se murmure que quelques investisseurs auraient été frappés à la porte de l'Élysée, investisseurs étrangers, en disant « bon, si jamais vous ne mettez pas d'accord, STX, ça nous intéresse ». Cela étant, quand on regarde les deux principales parties prenantes, en l'occurrence l'État français d'un côté, l'État italien de l'autre, et STX au milieu qui a un joli carnet de commandes pour 10 ans, les quatre parties prenantes, les États et les entreprises, ont intérêt à se mettre d'accord. C'est dans leur intérêt mutuel. Alors effectivement, on va se frictionner un petit peu, mais tout porte à penser qu'à la date échue, un accord sera par
Est-ce que Fincantieri, les Italiens, ont intérêt à accepter un deal avec les Français, même s'ils n'ont pas la majorité du capital? Non. Est-ce que c'est malgré tout intéressant pour eux?
Non, il faudra qu'ils arrivent à faire basculer le dossier. Oui. C'est-à-dire que nous, on a joué notre carte un peu forte avec le droit de préemption. Malgré tout, il faut qu'on fasse ce deal. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse.
Oui, mais est-ce que pour eux, c'est pas intéressant d'être actionnaire de STX, même s'ils ont
derrière l'actionnariat. Je vais employer un terme un peu grossier, mais qu'on utilise souvent dans ce cas-là, c'est petit minoritaire, petit con, gros minoritaire, gros con. Donc en l'occurrence, il vaut mieux être majoritaire parce qu'en l'occurrence, quand on est minoritaire, ça le fait pas. Donc le sujet pour lui, c'est d'être un vrai majoritaire et d'être un vrai majoritaire déclaré en assemblée générale.
Du coup, c'est un dialogue de sourds, puisque la France ne veut pas.
Non, parce que c'est un rapport de force. Et je voudrais rebondir, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Valérie Debord tout à l'heure. Il y a aussi les négociations sur les garanties.
Les négociations sur les garanties vont être
la variable d'ajustement.
Oui, mais juste pour finir là-dessus, vous imaginez un instant que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, dans quelques semaines, vont dire « bon bah finalement, on est d'accord pour ne pas être majoritaire chez STX ».
Ça s'appelle une négociation. Si vous êtes
après avoir brandi les muscles et dire « il n'est pas question qu'on laisse aller aux Italiens »,
on va obtenir des contreparties probablement sur les garanties d'emploi, sur les garanties de sous-traitants, parce qu'effectivement les sous-traitants sont manifestés depuis quelques jours maintenant en disant « s'il faut, nous on veut bien monter au capital ». Enfin, il y a un jeu comme ça qui va se faire. On va faire entrer des CNS dans le tour de table. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et une négociation, c'est l'art d'accepter de faire des petits pas parce que sinon, il n'y a pas de négociation et c'est pas la peine d'atteindre le 27 septembre.
Pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs quand même, DCNS, c'est aussi l'État, donc c'est un habillage.
Et DCNS, on rappelle juste, parce que c'est quand même technique tout ça,
c'est la direction des constructions navales, c'est ceux qui font dans le militaire.
Voilà, les bateaux militaires.
Ils font des bateaux militaires et c'est l'État.
C'est d'avoir un conglomérat industriel qui fasse du bateau militaire européen. C'est notre intérêt. On n'a pas réussi à le faire avec les Anglais, avec le Brexit, de toute façon, maintenant, c'est mort. Donc, il faut absolument qu'on rentre dans cette négociation-là. Et je ne vois pas comment, avec l'ambition qui est celle de la France en matière européenne, on ne trouve pas un accord. Et on le trouvera.
Mais moi, ce qui est quelque chose qui m'échappe, c'est quand Bruno Le Maire explique qu'il veut faire l'Airbus naval, je regardais tout à l'heure la composition du capital d'Airbus. Vous n'avez pas un industriel qui domine les autres. Vous avez finalement un actionnariat qui est très éclaté, assez équilibré.
Ce qu'il veut dire, c'est qu'à la base, il y a eu une volonté de deux pays. En fait, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté naissante de deux pays de mettre en place une stratégie industrielle sur un équipement d'avenir a permis après à des investisseurs multiprivés de se mettre en place. C'est ça qu'il veut dire. C'est une métaphore.
Vincent Trémollet, Figaro, je vous vois songeur.
Non, mais il fait de la politique aussi, Bruno Le Maire. C'est-à-dire qu'il y a l'opinion publique qui est enthousiasmé par l'idée de, je sais pas si on qualifie ça de patriotisme économique, de d'état stratège, enfin comme vous voulez. Et puis il y a le en même temps qui est quand même de maintenir l'idée européenne en disant on va faire un grand projet européen avec vous. Donc là, pour le coup, il est dans la communication. De la même façon, la tension qui est un peu surjouée entre la France et l'Italie sert à la fois le président français et le président du Conseil italien, puisque chacun peut se montrer en défenseur farouche. Donc ça, c'est évident que ça s'ajoute à ça. Mais il y a quand même au départ une négo qui peut-être à l'arrivée donnera à l'État français plus qu'elle n'avait au début.
Il y a une dimension politique intérieure aussi. C'est que la séquence économique pour Bruno Le Maire à Bercy n'était pas très simple. Il a eu GMS, il a eu les APL à gérer, qui étaient deux dossiers un petit peu compliqués. Et là, tout d'un coup, en nationalisant pour 3 francs 6 sous de manière temporaire STX, il reprend la main avec une opération qui fait l'unanimité. Donc,
dans parce que là, on parle de 80 millions, mais il ne faut pas croire que les investissements, ça va coûter 80 millions. Hein, donc, je veux dire 80 millions.
Oui, 80 millions, c'est la part du capital.
C'est un marché de dupes. Enfin, je veux dire, voilà,
c'est la préemption.
Voilà, c'est la préemption.
C'est ça.
Qui, ensuite, voilà, faut investir qui dans va l'entreprise. Nous récupérer de l'argent derrière. Mais après, faut investir. Là, c'est des milliards.
Et l'État n'a pas les moyens.
Non, et puis c'est pas la vocation d'État. Rôle.
Et puis c'est pas la conception, la conception de Le Maire et de Macron.
Très clair, enfin,
mais d'accord.
Non, bien sûr, c'est pas son rôle. C'est vraiment on est dans une phase tactique et c'est une arme dans la négociation. Et tout ça va petit à petit se déverrouiller sur la partie émergée et puis surtout ce qu'on n'imagine pas ou qu'on ne connaît pas dans ce genre de négociation parce qu'on n'aura pas 100% du dossier dans les journaux.
Angoisise, vous pensez que les Italiens accepteront de lâcher?
Je pense, mais on se retrouvera peut-être tous les quatre au mois de septembre, aux informés. Je pense qu'effectivement, compte tenu d'une certaine manière du risque politique qu'a pris Emmanuel Macron et Bruno Le Maire en nationalisant, ce qui est un acte fort, même si c'est à titre temporaire, mais c'est quand même quelque chose qui résonne dans l'oreille de tout un chacun, la notion de nationalisation même temporaire. Ça me semble difficile après de les entendre dire « bon, finalement, tout compte fait, on lâche la majorité ».
Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils ont aussi créé un précédent, c'est-à-dire que vous aurez ensuite peut-être d'autres entreprises dans le quinquennat qui vont dire restauré, bah, et nous, pourquoi pas nous ?
Ils ont restauré une idée disparue qui est celle de la possibilité de l'influence de l'État et du politique sur l'économie. Voilà. Ils ont restauré ça. Bon, alors, Hollande l'avait fait aussi, puis il a reculé. Montebourg avait tenté des trucs. Bon, c'était plus ou moins fantasque. Voilà. Ouais. Donc après, il peut y avoir de très fortes déceptions, il peut y avoir d'autres demandes, mais je pense quand même que le désamour des Français avec la politique vient du fait qu'ils ont l'impression que les politiques n'ont plus aucune influence sur les dossiers économiques. Donc
ça, c'est de nature à réconcilier les Français avec la politique.
Je ne sais pas si c'est de nature à réconcilier les Français, mais on voit très bien dans les enquêtes d'opinion qu'il y a une très très large majorité qui est en faveur de la décision prise par le maire.
Une nuance, malgré tout. On est sur un dossier stratégique. On est sur un dossier qui.
Mais ça, on peut pas le faire avec toutes les entreprises.
Bah,
ça,
non.
D'ailleurs, pourquoi on le fait avec cette entreprise-là? Parce que finalement, elle fait des navires de croisière.
Elle est stratégique. Valérie Debord l'a dit tout à l'heure.
C'est la plus grosse plateforme. C'est la plus grosse plateforme en fait de construction navale au monde. Enfin, je veux dire, on peut pas passer à côté.
Non. Pour construire des porte-avions,
Charles de Gaulle numéro 2.
Qu'on n'a jamais réussi à faire avec les Anglais et qui est aujourd'hui est quand même une de nos grosses difficultés.
C'est uniquement l'aspect militaire. Puisque,
mais non, pas uniquement, c'est global. C'est-à-dire, c'est aussi des compétences. Aujourd'hui, on a des compétences humaines en formation qui sont énormes, qui sont à Saint-Nazaire, que les Italiens n'ont pas. Non pas. Ils vont aller chercher ces compétences, ça c'est certain. C'est des choses sur lesquelles il faut aussi qu'on se prémunisse. C'est un fait qu'il faudra mettre dans la négociation. Mais ces compétences-là, ces formations-là, Bruno Retailleau l'a très bien dit quand il a reçu d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin.
Bruno Retailleau,
le président de la région. Ouais. Non, quand il a été reçu, pardon, par Bruno Le Maire. Il a très bien dit ce matin. C'est des choses qu'il faut qu'on conserve dans notre pays. Ça, c'est très important.
C'est un enjeu pour les compétences, pour l'emploi. Et en tout cas, c'est un débat qui va nous animer dans les informés de France Info, au moins jusqu'au 27 septembre. Dans un instant, les JO, la France évitera-t-elle le piège du dérapage budgétaire? Il est 20h50, toute l'info, Lauriane Delanoë.
Les marcheurs auront 15 jours de plus pour se prononcer sur les statuts du parti. La République En Marche se plie à l'ordonnance du tribunal de Créteil, tribunal qui rejette la demande d'annulation du vote formulée par des adhérents du mouvement. De nouveaux incendies cet après-midi dans le sud-est. Ils sont maintenant maîtrisés dans les Alpes-Maritimes, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et surtout une chaleur étouffante. La canicule s'installe de la Corse du Sud à la vallée du Rhône. Météo France place aussi 16 départements en vigilance orange pour orages violents. Et c'est surtout l'axe allant du Massif central à la frontière allemande. Vigilance levée en revanche pour l'Allier et le Puy-de-Dôme. Retour à la normale annoncé demain à la gare Montparnasse après 3 jours de paralysie dans cette gare parisienne. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, présente ses plus sincères regrets aux 55 000 clients touchés. L'autoroute A4, elle, doit rouvrir dans la soirée. La circulation est coupée dans les deux sens depuis ce matin dans l'Aisne à cause d'un accident de poids lourd au niveau de Fresnes en Tardenois.
France Info. Les informés. Guillaume Cahour.
20h51, dernière ligne droite des informés sur France Info, comme tous les soirs, avec nos invités Vincent Trémollet du Figaro, Franck Boisise de Libération, Xavier Alberti, chef d'entreprise qui soutient Emmanuel Macron, et Valérie Debord, porte-parole des Républicains. La France évitera-t-elle le piège du dérapage budgétaire? On voit mal ce qui pourrait en tout cas cette fois empêcher la France d'organiser les JO de 2024, puisque le seul concurrent, Los Angeles, va organiser ceux de 2028. Alors, comme à chaque JO, la question est celle-ci. Est-ce bien raisonnable? Comme le souligne Charles de Courson, député républicain, fin connaisseur des finances publiques.
Ceux qui disent que c'est formidable parce qu'il va y avoir des retombées formidables, c'est pas raisonnable de dire des choses comme cela. Je ne pense pas que ces 6 milliards d'investissements supplémentaires soient à la hauteur des retombées économiques et que ces 6 milliards pourraient être utilisés plus utilement à d'autres investissements publics.
Voilà. Charles de Courson, député UDI. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu rabat-joie, Charles de Courson ?
Il casse un peu l'ambiance quand même, parce que généralement, il y a une euphorie qui n'est pas uniquement sportive, qui se dégage de l'organisation des Jeux Olympiques.
L'euphorie n'est pas non plus extraordinairement, traverse pas le pays de façon visible, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même qu'il y a une auto-célébration et un enthousiasme un peu forcé. J'imagine, j'en sais rien, j'ai pas fait d'études d'opinion, mais il y a peut-être une assez grande indifférence. Et alors, pour le coup, il y a une défiance de Parisiens disant à quelle sauce on va être mangé.
Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement, on était tout seul sur la,
bah oui.
la ligne mais d'arrivée donc, finalement.
Ne dites pas ça, mais ça, c'est vraiment très français.
Casseur d'ambiance.
Que n'a-t-on dit quand on a perdu contre Londres? Pour les JO de 2012, hein, qu'on était mauvais, qu'on savait pas faire, qu'on savait pas négocier, qu'on savait pas s'y prendre, qu'on savait pas faire du lobbying. Là, on vient de gagner face à Los Angeles, parce que la réalité, c'est qu'on est en train de gagner, parce qu'on va attendre quand même Lima et le 13 septembre, mais on devrait gagner.
On était face deux à pour deux JO.
Non, d'abord, on n'était pas deux à la base, on était plus que
ça. Oui, mais les autres ont abandonné.
Ils ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas prêts. Quand vous faites une compétition, si les autres compétiteurs abandonnent, ça veut dire qu'ils sont moins bien préparés que vous. Le fait est qu'il y avait une super équipe, qu'elle a bien emmené son dossier et qu'on est en train de remporter les Jeux Olympiques. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il faille être précautionneux des investissements.
Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser.
Mais on peut quand même, à un moment donné, ne pas jeter en permanence le bébé avec l'eau du bain en disant que on a gagné, mais on ne devait pas mériter de gagner. En revanche, on a mérité de perdre.
Revenons sur notre ligne de départ qui était donc, est-ce qu'on va pouvoir tenir ce budget? 6 milliards d'euros, c'est ce qui est annoncé. Je rappelle juste que Londres, c'était à peu près pareil, ils ont fait le double. La Chine, bon, c'est encore autre chose, Pékin, c'était 32 milliards avec le gigantisme chinois.
Ils avaient moins d'infrastructures.
Mais voilà, alors nous, la promesse, c'est finalement d'avoir toutes les infrastructures existantes et on ne construit rien, c'est ça?
Alors, c'est pas on construira quelques infrastructures complémentaires. Mais il est vrai que la France est un pays qui est bien équipé, parce que le Stade de France, il est déjà là, et Roland-Garros, c'est déjà là. Donc, c'est ça qui vient en retrait de la facture d'investissement.
Le vrai enjeu, si je puis me permettre, c'est pas vraiment que ça coûte 6 ou 8 milliards. Le vrai enjeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. En fait, Londres n'a pas trop mal réussi cette étape-là. D'autres l'ont complètement raté.
Comment on transforme les infrastructures
en équipements qui vont servir les Franciliens, en l'espèce. Les équipements qui sont importants aujourd'hui pour les Franciliens et qui manquent, c'est des logements.
Mmh. Voilà. Et du transport.
Pour y accéder. Mmh. Mais a priori, logiquement, ça devrait être
substantiel.
C'est-à-dire que le transport, il n'y a rien à faire de particulier pour les JO. Tout est prévu dans le Grand Paris.
Voilà. Alors, mais il faut quand même le construire.
On est d'accord. Mais il n'y a pas de ligne spécifique.
Et ce qu'il faut, c'est réussir l'essai de transformation d'équipements dédiés à 15 jours merveilleux, un mois merveilleux, qui vont être pour les Franciliens. Voilà. Et c'est ça la réussite derrière de ces milliards.
Oui, mais regardons l'équation, si vous me permettez.
Ça veut dire qu'il faut quand même le voir.
J'ai fait un numéro spécial pour les JO d'Athènes, et puis un numéro spécial pour les JO de Pékin. Oui. Et puis alors, à chaque fois, il y avait des infrastructures fabuleuses. Et puis, les habitants disaient, mais nous, on n'a rien. Mmh. Et la saleté continue, et rien ne marche. Et puis, de toute façon, Londres, ça va durer un mois, et ça sera bon. Donc, on va avoir exactement les mêmes polémiques, parce qu'en plus, il y a déjà des polémiques.
Parce que là, on dit, c'est une JO nouvelle formule.
Ce que oui, on a même entendu quoi, dans un de vos sujets tout à l'heure, les JO low cost.
Mais c'est pas terrible, ça.
Low cost, hein.
Oui, je sais pas bien en
ça,
quoi
ça... fait pas rêver, ça.
Ça fait pas rêver. Mais est-ce que finalement, la vocation aussi des Jeux Olympiques, c'est de créer de nouvelles infrastructures sportives, notamment, dont on se sert ensuite. Là, finalement, il n'y aura rien de nouveau. Est-ce que ça,
non, mais regarde, dans le passé, quand on a fait le Stade de France pour la Coupe du Monde de football, ouais. Aujourd'hui, on a un stade qui fonctionne aussi bien pour de l'entertainment que pour du sport, et qui est une installation qui a toute sa place en Ile-de-France. Bon, qu'est-ce qui va poser problème demain ?
Ça manque de bistrot autour du stade, mais ça, c'est autre chose.
Considération de consommateur.
Comparé au carnet, mon cher Vincent. C'était bien.
Mais revenons-en aux infrastructures qui sont prévues. Il est prévu de faire un village, pour les médias, qui est un village olympique, en Seine-Saint-Denis. Compte tenu de la tension qu'on a sur le logement en Ile-de-France, où on a un besoin qui est rarement satisfait, le fait que les logements qui vont être consacrés aux athlètes soient ensuite revendus et viennent en supplément pour abriter la population francilienne, je ne pense pas que ça puisse être un mauvais investissement.
Mais si c'est bien pensé, si c'est pensé avec des bailleurs sociaux, dans le cadre de réalisations intelligentes qui permettront l'accès, notamment à des tarifications sociales, ça sera bien. Voilà. Si c'est pensé que sur de l'investissement privé, sans voir la réalité de la population, des difficultés d'accès au logement et des difficultés économiques de la population, ça sera moins bien.
En tout cas, Valérie Debord, vous êtes élue dans l'Est.
Dans le Grand Est.
Vous n'allez absolument pas bénéficier des Jeux Olympiques.
Bah, j'y viendrai quand même.
Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être aussi pour
non,
ça.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un état d'esprit. C'est comme un état d'esprit. C'est la France.
C'est ça.
Enfin, je veux dire,
c'est une énergie, un dynamisme.
Pour vous faire une confidence, je ne suis pas la sportive du siècle. Néanmoins, chez nous, en France, 100 ans après 1914, avoir les Jeux Olympiques, se dire que le monde entier va regarder Paris et la France, que le monde entier va être présent, que des milliards de gens vont regarder la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture.
Même si dans l'Est, on n'en bénéficie pas directement, on est fiers.
On est français quand même. Donc c'est quand même
mais
sympa.
Mais il y a la question de l'attachement.
Non, mais il y a tous les sujets.
Alors, pour conclure, vous avez le mot de la fin.
Il y a tous les sujets de bien corporel. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière des Jeux Olympiques, derrière un événement de cette ampleur-là, il y a le fait de mettre la lumière sur Paris, mais sur un pays, parce que le tourisme bénéficiera à tout le monde, finalement, au bout du bout. L'attractivité bénéficiera à tout le monde, même si, effectivement...
Et je peux vous dire qu'une semaine avant, on dira ça va être une catastrophe, et quand ça sera fini, on dira quelle réussite.
Voilà, non, mais c'est aussi une dynamique.
Vous avez l'air bien fataliste, quand même. Non,
c'est aussi une dynamique, mais je pense qu'il y a quand même un sujet qu'il faudra un jour que le CIO prenne en compte, c'est qu'effectivement, ça commence à être très coûteux, il y a de moins en moins de candidats, et il va peut-être falloir que le CIO qu'il y ait des candidatures multiples et pourquoi pas des Jeux Olympiques européens partagés entre plusieurs villes et qu'on arrive à des formules un peu nouvelles.
Ça, je pense que l'attachement au JO n'est pas équivalent à celui, par exemple, d'une grande compétition
de football. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu dans les informés ce soir. Vincent Trémollet, Valérie Debord, Xavier Alberti et Franck Boisise. Les informés, on se retrouve demain avec grand plaisir à 20h sur France Info.